Le journal de la rédaction vous est présenté par Mathilde Cariou. Bonjour Mathilde.
Bonjour Nora, bonjour à toutes et à tous. 200 tonnes de riz, de farine et des palettes de dattes. Le premier navire d'aide humanitaire a été déchargé à Gaza ce matin. Place à la distribution aux populations menacées par la famine. La Russie attaquée en pleine élection présidentielle. Des drones ukrainiens ont visé des raffineries dans la région de Samara. Le vote continue malgré tout sous l'œil plus ou moins sérieux d'observateurs étrangers triés sur le volet. Et puis en France, les Insoumis lancent leur campagne européenne. Leïla Chebbi, députée européenne pour la France Insoumise, est l'invitée de ce journal. 370 km depuis Chypre, voilà la distance parcourue par le navire humanitaire Open Arms, arrivé hier soir à Gaza. Il a utilisé le nouveau corridor humanitaire et c'est le premier bateau à passer le blocus maritime imposé par Israël en 2007. L'ONG World Central Kitchen a déchargé la cargaison ce matin et doit désormais s'occuper de la distribution de ses denrées à la population de l'enclave, population menacée, affamée par 5 mois de guerre. Décision à Jérusalem avec Alice Froussard.
Les 200 tonnes d'aide humanitaire ont été transportées sur une barge tractée par le navire. Elles ont été déchargées sur une jetée de fortune construite sur la plage de Gaza afin de faciliter cette livraison et les suivantes. Puis l'aide alimentaire a ensuite été chargée à nouveau dans 12 camions pour permettre sa distribution. Du riz, de la farine, des protéines en conserve destinées aux civils du nord de la bande de Gaza où la population risque une famine généralisée. L'ONG World Kitchen, à l'origine de l'initiative, se félicite de ce premier test réussi. Nous allons pouvoir amener des milliers de tonnes d'aide humanitaire chaque semaine. Et dans le port de Larnaca, à Chypre, un autre bateau est déjà en cargaison. Mais cette aide ne suffira pas, répètent la communauté internationale et les organisations humanitaires. Car ce couloir maritime, mais aussi les largages d'aide par parachute que l'on a vu ces dernières semaines, ne peuvent pas se substituer à l'ouverture des points de passage terrestres qui sont, disent-elles, moins coûteux, plus rapides, plus efficaces. On parle de 200 camions bloqués qui attendent à Rafah avant d'entrer dans la bande de Gaza. Ce bateau ne représente que 12 camions, c'est bien trop peu au regard des besoins immenses.
Et en parallèle, les négociations autour d'une trêve vont pouvoir reprendre après l'échec des discussions pour un cessez-le-feu avant le Ramadan. Le Premier ministre israélien annonce l'envoi d'une nouvelle délégation au Qatar. De son côté, le Hamas revoit ses exigences à la baisse avec un cessez-le-feu de 6 semaines plutôt qu'un arrêt définitif des combats. Et toujours cet échange d'otages, 20 à 50 prisonniers palestiniens pourraient être libérés par otages rendus à Israël. La Russie bombardée en pleine élection présidentielle. 2 personnes ont été tuées ce matin à Belgorod dans des frappes revendiquées par l'Ukraine. Elles ont aussi visé des raffineries dans la région de Samara, c'est environ 800 km de la frontière. Ces attaques de drones se multiplient ces dernières semaines et elles portent un véritable coup, Camille Magnard, à l'économie du pétrole russe.
Depuis le début de l'année, les drones ukrainiens ont frappé une quinzaine de sites pétroliers sur le territoire russe, dont une demi-douzaine rien que cette semaine, avec des attaques de drones en escadrille lancées depuis l'Ukraine qui parcourent parfois jusqu'à 800 km avant de toucher leur cible. Les modèles utilisés par les Ukrainiens qu'ils produisent eux-mêmes peuvent en théorie voler jusqu'à 1 millier de kilomètres, ce qui met plus de la moitié de la capacité de raffinage russe sous leur menace. Le raffinage et l'exportation d'hydrocarbures, c'est l'un des piliers de l'économie de la Russie, sa principale source de revenus pour financer la guerre. Et c'est bien ça que les Ukrainiens tentent d'affaiblir. Et ça fonctionne. Fin février, Moscou a décrété un moratoire sur les exportations d'essence et de diesel, de crainte que les conséquences des attaques ukrainiennes n'entraînent des pénuries de carburant pour sa propre population, comme ça avait déjà été le cas à l'automne dernier. Vu de Kiev, on trouve aussi que les alliés occidentaux de l'Ukraine tardent trop à interdire vraiment à la Russie d'exporter ses hydrocarbures, par crainte d'entraîner une hausse des cours mondiaux du pétrole. L'Ukraine est donc passée à la manière forte et la Russie ne semble pas encore avoir trouvé la parade à ses armées de drones dans son ciel.
L'armée russe qui affirme par ailleurs avoir repoussé de nouvelles incursions terrestres armées dans la région frontalière de Belgorod. Incursions menées par des groupes de Russes ralliés à Kiev et opposés à Vladimir Poutine. Dans le même temps, le vote se poursuit en Russie. 118 millions de citoyens appelés aux urnes jusqu'à demain pour réélire Vladimir Poutine puisque le scénario de cette élection est déjà écrit. Le Kremlin a interdit tous les observateurs indépendants. Seuls les 4 candidats sont autorisés à envoyer des observateurs. Ceux-ci sont donc soigneusement choisis pour valider le processus électoral et donner un vernis de sincérité à l'élection. Parmi eux, un certain nombre d'étrangers et quelques Français, Sylvain Tronchet.
La Russie revendique 700 observateurs étrangers sur cette présidentielle. Depuis hier, ils sont promenés dans les bureaux de vote aux quatre coins du pays et parmi eux, on trouve des Français souvent recrutés à l'extrême droite, voire la droite la plus radicale, comme Ivan Benedetti, militant d'ultra-droite bien connu en France, condamné plusieurs fois pour négationnisme ou propos racistes. Il était hier à Novosibirsk.
I can say that everything is clear and very good organization.
Je peux dire que tout est clair, bien organisé. Les observateurs internationaux font le miel de la télévision russe qui les interviewe.
My name is Christian Roll, I am French.
Christian Roll, lui, est écrivain. Il se définit lui-même comme pro-russe et va jusqu'à dire
There is more democracy here than France.
Il y a plus de démocratie ici qu'en France. Parmi les Français invités par la Russie, actuellement, on trouve également Franck Pingam, un influenceur conspirationniste, climato-sceptique. On trouve aussi des profils moins à droite, comme l'ancien sénateur UDF Emery de Montesquieu ou un élu local de la banlieue de Dijon, Cyril Gaucher, encarté chez LR. Tous ont des liens, parfois financiers, avec la Russie et entendent bien les garder.
Et selon le média russe indépendant Medusa, plusieurs habitants de Moscou ont reçu des messages sur Telegram où un expéditeur non identifié leur demande d'aller voter malgré leur soutien à des organisations extrémistes. D'après les différents témoignages, les destinataires sont soit des partisans de l'ancien candidat Boris Nadejdin, soit des personnes abonnées au fil info de l'équipe d'Alexei Navalny. Politique également en Hongrie avec la création d'un nouveau parti qui fait du bruit dans un pays où Viktor Orban règne sans partage depuis maintenant 13 ans. Dans ses rangs, personne n'osait évoquer sa succession. Mais voilà qu'un haut fonctionnaire décide de faire sécession. Il s'appelle Peter Madiar. Il est marié à l'ancienne ministre de la Justice qui a récemment démissionné en même temps que la présidente dans une affaire de complicité de pédocriminalité. Peter Madiar a annoncé la création de son parti hier lors de la fête nationale. Et il veut désormais défier un pouvoir qu'il juge corrompu, Florence Labruyère.
Sur l'avenue Andrássy, les Champs-Élysées de Budapest, Peter Madiar est très applaudi. Ce haut fonctionnaire issu du parti de Viktor Orban tire à boulets rouges sur la corruption du régime. Où est passé l'argent de l'Europe? Dans les poches des oligarques proches du pouvoir.
La première décision que doit prendre un nouveau gouvernement, c'est d'adhérer au parquet anticorruption européen.
Tibor travaille dans les relations publiques. Il s'avoue séduit par Peter Madiar.
Je le trouve sympathique, intelligent, rassembleur, pas très charismatique, mais c'est un type décent. Il a raison, il faut arrêter la corruption. Si ce pays est dans un état pareil, c'est parce qu'ils ont tout volé.
Dans la foule, beaucoup d'électeurs de gauche qui sont d'accord avec les propositions du nouveau parti annoncé par Peter Madiar. Le retour à la liberté de l'enseignement, le renflouement des hôpitaux démunis. Mais Marta pense que ce mouvement peut aussi attirer des voix de droite.
Je crois qu'une partie des électeurs du Fidesz pourrait voter pour Peter Madiar. Comme ça, ça affaiblirait le pouvoir excessif d'Orban.
D'après un sondage, 11% des personnes interrogées voteraient pour ce nouveau parti, bien qu'il n'ait pas encore vu le jour.
Encore au volet électoral en Inde, la commission électorale fixe au 19 avril le début des prochaines élections législatives. Élections à l'issue desquelles le premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi espère décrocher un troisième mandat. La force de tout changer, c'est le slogan dévoilé par la France Insoumise juste avant le lancement officiel aujourd'hui de la campagne pour les élections européennes. Alors la convention a débuté ce matin, mais le meeting ne commencera qu'en milieu d'après-midi. Les organisateurs attendent plus de 3000 militants au parc des expositions de Villepinte en Seine-Saint-Denis. Démonstration de force alors que les sondages donnent les Insoumis derrière la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann. Parmi les personnalités présente Manuel Bompard, Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry et puis la députée européenne pour la France Insoumise, Leïla Chebbi. C'est l'invitée de ce journal au micro de Sophie Delpont. Elles sont en direct de Villepinte. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour Mathilde, bonjour à tous. Leïla Chebbi, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes eurodéputée LFI depuis 2019. Vous figurez sur la 5e place de la liste portée par Manon Aubry aujourd'hui, donc en place rééligible. Il y a 4 listes à gauche, avec celle donc menée par Place Publique, qui est socialiste, celle des écologistes, celle des communistes, et même une 5e avec le Parti Radical de gauche. En 2019, la liste portée par Manon Aubry avait réuni 6,31% des voix. Comment comptez-vous faire pour faire mentir les sondages qui vous donnent aujourd'hui autour de 7% des intentions de vote? Ben d'abord, je voudrais dire que je regrette qu'il y ait autant de listes à gauche. À la France Insoumise, on a été pendant des mois et des mois les fervents défenseurs d'une liste unitaire dans la continuité de la NUPES, c'est-à-dire une liste basée sur la rupture, sur laquelle on s'était mis d'accord sur un programme en 2022. Et dans ce programme-là, il y avait une partie européenne, il y avait un volet européen. On aurait pu partir ensemble sous les mêmes couleurs. Bon, et puis se dire que ça aurait eu quand même, ça aurait été quelque chose d'afficher au soir du 9 juin, eh bien, pas seulement une gauche émiettée, mais un bloc important en capacité de devancer la liste d'Emmanuel Macron et la liste du Rassemblement National. Bon, maintenant, c'est pas le choix qui a été fait par nos partenaires, et puis on l'accepte, hein, et on se lance en campagne aujourd'hui, et on propose aux citoyens, aux citoyennes, d'envoyer une liste de combattants au Parlement européen. Sur notre liste, je crois, si vous comparez avec nos partenaires de gauche, on est très fiers d'avoir des combattants, donc des syndicalistes, d'avoir des militants de terrain, d'avoir l'équipe de sortants, d'avoir aussi finalement des gens de la NUPES. Je pense notamment à Damien Carême qui était eurodéputé Europe Écologie. Je pense notamment à Raj Saïdi de Génération. Bref, nos partenaires n'ont pas voulu faire la liste de la NUPES. On l'a fait, et on l'a fait en plus avec des gens qui sont vraiment inscrits dans des combats. Et pour sortir de 5 ans de mandat au Parlement européen, je sais que c'est essentiel d'avoir des gens qui vont arracher des victoires, qui peuvent arracher des victoires à l'Union européenne. Mais justement, vous disiez qu'il y avait une volonté à l'origine d'avoir une liste commune. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie sur le fond par rapport aux autres listes portées par la gauche ?
Eh bien d'abord, au Parlement européen, vous savez, à l'Union européenne, il y a une co-gestion entre les groupes sociaux-démocrates et le groupe du Parti populaire européen. Donc sociaux-démocrates, c'est là où siègent Raphaël Glucksmann et nos collègues eurodéputés socialistes. Et donc, ils se mettent d'accord pour gérer ensemble le fonctionnement de l'Union européenne. Ils ont ensemble mis à la tête de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Ils ont validé ensemble le retour de l'austérité budgétaire. Hein. Vous savez, les règles complètement absurdes, par exemple, selon laquelle vous ne pouvez pas, quand vous êtes un État membre de l'Union européenne, dépasser les 3% de déficit. Ces règles-là, on a réussi à les faire chanceler au moment du Covid, elles ont été remises en question. Elles reviennent au galop, ces règles qui vont empêcher les États d'investir dans les services publics, de faire des dépenses qui permettent d'améliorer les conditions de vie des gens. Et là-dessus, nous nous opposons. Notre groupe est également le seul groupe à s'opposer aux accords de libre-échange. Personne, pas un seul eurodéputé du groupe de la gauche présidé par Manon Aubry, n'a voté pour les accords de libre-échange. Vous savez que ces derniers temps, il y avait un mouvement important des agriculteurs qui contestaient la concurrence déloyale de produits qui viennent de l'autre bout du monde et qui viennent concurrencer ce qui est produit chez nous. On a vu à quel point pendant la crise du Covid, c'était important de relocaliser et de réindustrialiser ici en Europe. Notre groupe s'oppose aux accords de libre-échange. C'est ce qui nous différencie de nos partenaires de gauche, entre autres.
À propos aussi de ce qui vous différencie, il y a eu ce vote sur l'accord entre la France et l'Ukraine au Parlement cette semaine. Comment la réaction, donc le vote négatif de la France insoumise, a été perçu par vos partenaires au niveau européen ?
Oui, alors d'abord, nous condamnons depuis le début l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et je veux ici en profiter pour rappeler toute notre solidarité, ma solidarité au peuple ukrainien face à l'agression russe que nous condamnons. Maintenant, il y a différentes façons de soutenir l'Ukraine, et je ne crois pas, nous ne croyons pas que élargir l'Union européenne à l'Ukraine est une bonne solution, ni pour les Ukrainiens, ni pour les Européens actuels.
Une autre question pour vous aussi, avec cette figure qui a focalisé un peu la polémique, Rima Hassan, qui fait partie de votre liste, qui est une militante pro-palestinienne. Qu'en pensez-vous de cette présence sur votre liste ?
Alors d'abord, je suis très très fière d'avoir une militante pro-palestinienne, mais pas seulement. Elle est née dans un camp de réfugiés, Rima Hassan. C'est une juriste internationale et on sait l'importance du droit international. Alors certains pourraient se dire, mais quel rapport avec les élections européennes ? Et il se trouve que justement, c'est très important d'avoir des figures comme Rima Hassan. Pas plus tard que cette semaine, vous savez, on avait une plénière à Strasbourg. Il y avait un débat, comme il y en a souvent, et une résolution sur la situation à Gaza. Il y a une responsabilité de l'Union européenne, déjà en tant que force, institution qui peut interpeller, qui peut rappeler Israël à ne pas bafouer le droit international. Et par ailleurs, il y a différents leviers qui sont à la disposition de l'Union européenne et qu'elle devrait exercer plutôt que d'être complice des bombes, complice des obus et complice actuellement de la famine qui tue énormément de personnes. On pourrait suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et donc, on a besoin de figures comme Rima Hassan. Alors, vous allez me dire, elle a été beaucoup caricaturée ces derniers temps. J'ai entendu lu énormément de caricatures, des choses vraiment très désagréables ont été dites sur elle. Et en tout cas, je vous invite à lire ce qu'elle dit directement et je suis très fière de l'avoir avec nous.
Léa Chébi, merci pour cette interview. Nous retournons à la Maison de la Radio rejoindre Mathilde Cariou pour la suite du journal de midi et demi de France Culture.
Et merci beaucoup Sophie Delpont avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Juste un mot du temps pour cet après-midi. Il va rester couvert sur la majorité du territoire, à l'exception du sud-est où le soleil brille. Les températures sont printanières. Il fait 15 degrés à Strasbourg, 16 à Rennes, 18 à Toulouse et 22 les maximales à Perpignan.